Le professeur Jean-Louis Rastoin souligne que nombre d'agriculteurs sont conscients des changements climatiques et de leurs impacts vérifiables et appréhendés, mais que malheureusement, le niveau de conscience n'est pas le même chez les autres partenaires de l'agroalimentaire. Les transformateurs et les politiciens seraient, dit-il, particulièrement en retard à ce sujet. J'ai eu une discussion fort intéressante avec Jean-Louis Rastoin. Monsieur Jean-Louis Rastoin, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Rastoin, vous êtes à Montpellier, à Subagro. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est Subagro?
Alors, c'est une école qui forme des ingénieurs agronomes, qui est une école assez vieille, puisqu'elle a aujourd'hui 165 ans, je crois. Et dans le cadre de cette école, nous avons fondé en 2011 une chaire UNESCO sur la question des alimentations du monde. Alors la chaire UNESCO, c'est un label, hein, c'est comme le patrimoine mondial de l'humanité, mais là c'est le patrimoine immatériel intellectuel. Donc l'UNESCO reconnaît des équipes d'enseignement et de recherche pour leur excellence dans un domaine universitaire. Hein. Nous avons choisi agriculture, alimentation durable.
Dans le contexte au colloque international sur la question des systèmes alimentaires face au changement climatique, il y a un lien très direct entre changement climatique et sécurité alimentaire.
Oui, oui, tout à fait. Il y a un lien direct, mais comme vous le savez, le changement climatique fera pleinement sentir ses effets à la fin du siècle. Donc c'est du très, très long terme. Cependant, on commence déjà, surtout dans les épisodes violents de climat, comme les cyclones récents dans les Caraïbes ou aux États-Unis, hein. Mais dans l'agriculture, ça se manifeste par un plafonnement des rendements. C'est-à-dire que l'augmentation de chaleur et les sécheresses provoquent une limitation des rendements. On atteint un sommet dans les rendements et les scientifiques s'attendent à ce que les rendements décroissent dans les années à venir, jusqu'à l'horizon donc, de la fin du siècle. Hein. Ça se situe entre 5-6% et 50% selon les espèces végétales. Ça va concerner aussi les animaux. Mais pour vous donner un exemple, la plante la plus menacée qui est très cultivée ici en Amérique du Nord, c'est le maïs. Et c'est pour le maïs qu'on va voir les baisses de rendement les plus violentes qui vont être une division par deux pratiquement, évidemment si la science et la technologie ne font rien. Donc c'est un lien qui est très préoccupant. Alors il y a un autre lien qui se fait sur la moindre résistance des variétés actuelles à des phénomènes comme la salinisation des sols. Les sols salés, évidemment, ne conviennent pas pour le blé, le riz, etc. Et en conséquence, ils vont appauvrir des zones entières, hein, notamment dans le bassin méditerranéen, et empêcher, limiter fortement la culture. Donc c'est vraiment quelque chose de préoccupant. Et les spécialistes pensent également qu'il y aura une répercussion sur la qualité des aliments produits à partir de ces espèces du fait des chocs thermiques.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une illusion de la part d'agriculteurs, de producteurs agricoles dans des régions comme celle du Canada et du Québec, où on est un peu plus nordique et donc les changements climatiques ont un effet, pour l'instant, illusoire, bénéfique,
oui, oui.
Mais illusoire?
Vous avez tout à fait raison. Bon, il se trouve que j'ai l'occasion de voyager dans le monde entier pour faire mes recherches. Et c'est vrai que les zones les plus menacées sont les zones qui sont autour de l'équateur. Et entre les tropiques, ce sont des zones qui vont devenir des zones semi-arides ou arides même, désertiques. Et là, il y a une menace terrible. Mais pour le Canada, c'est une chance parce que le Canada est un pays qui est très septentrional. Et en conséquence, ce qui se passe, c'est que des cultures comme la vigne, par exemple, pourront prospérer beaucoup mieux que par le passé. Donc les cultures vont remonter vers le nord, probablement jusqu'à la frontière de la forêt, hein. Et donc vous devrez logiquement augmenter la superficie cultivable au Canada et permettre l'exploitation de nouvelles plantes comme par exemple le soja qui commence à se développer, etc. Ça ne va pas aller jusqu'au café, au cacao, mais quand même, ça va permettre de stimuler la production de ce qu'on appelle les grandes cultures, c'est les céréales notamment, les légumes, les fruits, etc. Donc c'est une grande chance pour le Canada. Mais c'est pour les pays tropicaux, comme je l'ai indiqué, c'est un drame.
Mais encore une fois, même pour nous ici au Canada, au Québec, il y a l'illusion que les choses vont aller mieux à long terme, ce qui n'est pas vrai. On va faire face au même problème, éventuellement, que la bande, la ceinture de l'équateur.
D'ailleurs, vous avez commencé à le subir, malheureusement, ici, si vous voulez. Ce qu'on appelle les événements climatiques violents vont quand même se multiplier. multiplier. Les événements climatiques violents, ce sont des sécheresses plus dures et plus longues. Et derrière les sécheresses, il y a les incendies. Donc déjà au Canada, il y a des incendies de grande ampleur qui détruisent aussi les surfaces agricoles. Et puis vous avez les épisodes de précipitations pluviales très fortes, donc les inondations. Et c'est ça qui va se multiplier. Donc il ne faut pas croire, effectivement, que le Canada va être à l'abri de tout ça et qu'il n'a pas à faire face à des catastrophes climatiques dans l'avenir. Il faut se préparer à ça.
Est-ce que vous voyez, vous observez dans vos travaux, le niveau de conscience des gens du monde agricole, du monde alimentaire, agroalimentaire, face à ces phénomènes-là? Est-ce qu'on n'est pas un peu en décalage complètement dangereux, là?
Oui, c'est une très bonne remarque. Je pense que les agriculteurs sont plus sensibles à ce changement climatique parce que c'est leur gagne-pain, la terre et la pluie, hein, si je simplifie un peu. Par contre, si vous allez un peu plus loin dans la filière agroalimentaire, si vous parlez avec des industriels ou des commerçants, avec les supermarchés, tout ça, ils ne sont pas absolument conscients de ça. Et ils disent, bon, c'est pour dans 50 ans, on a le temps de voir venir, etc. Et ça ne les concerne pas directement, ce sont leurs enfants et petits-enfants. Hein. Mais par contre, tout à fait au bout de la chaîne, il y a le consommateur. Et le consommateur est plus sensible que le reste de la filière alimentaire à ces questions de changement climatique importants. Parce que c'est tout l'environnement qui est modifié. Le consommateur d'aujourd'hui voyage de plus en plus. Donc il voit ce qui se passe dans le monde entier. Et quand on lui dit que le niveau de la mer risque de monter d'un mètre, hein, par exemple, comme vous le savez, pour New York, c'est Manhattan va disparaître, hein, enfin risque de disparaître, etc. Donc ce sont des choses que le grand public, l'opinion publique, a mieux conscientisées que, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les politiques. Les hommes politiques, comme c'est du très long terme, qui seront probablement plus au pouvoir quand ça va se multiplier, n'ont pas conscience de ça. Alors, il y a des manifestations comme la COP21, la Grande Réunion de Paris, où on a signé un accord mondial sur le changement climatique. Ça, ce sont des avancées politiques d'hommes politiques qui sont clairvoyants, qui voient plus loin que leur mandat de 4 ans ou 8 ans. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, le Premier ministre du Québec nous l'a rappelé dans la conférence inaugurale, à juste titre. Et je crois que le Québec et le Canada ont une position très intelligente par rapport à d'autres qui sont vos voisins en ce qui concerne le changement climatique.
Notre fameux voisin. Qu'est-ce qui peut être fait? Bien sûr, vous parlez des consommateurs qui sont de plus en plus conscients, peut-être une majorité de consommateurs qui devient conscient de situations comme celle-là. Mais qu'est-ce qui peut être fait si on se met dans la peau d'un politicien qui serait vraiment très éclairé là, en ces matières-là?
Alors, en matière de changement climatique, il faut ce qu'on appelle des modes de production résilients, c'est-à-dire qui résistent aux chocs climatiques. Et donc, il faudra progressivement abandonner la spécialisation des productions agricoles, c'est-à-dire sur des très très grandes superficies, ne faire que du blé ou ne faire que du maïs ou ne faire que du soja, il faudra aller vers ce qu'on appelle l'agroécologie, qui est une combinaison des productions végétales entre elles. Par exemple, vous faites du maïs, mais vous faites aussi du soja, vous faites des légumineuses, etc. On associe l'agriculture à l'élevage, c'est très important, c'est-à-dire dans une même micro-région, il faudra qu'il y ait de l'agriculture, de l'élevage. Et le troisième élément important, c'est la forêt. Et ces trois choses associées font que, d'abord, on constitue un puits de carbone, c'est-à-dire qu'on limite les gaz à effet de serre qui sont nuisibles pour le climat. Et ensuite, on a également une amélioration des précipitations de pluie, c'est-à-dire qu'on va améliorer, on va lutter mieux contre les sécheresses. Si on reste dans des systèmes très spécialisés, on va vraiment à des catastrophes de grande ampleur. D'autant plus que si vous concentrez trop les productions sur un même endroit, à une très grande surface, vous avez des risques de maladies qui ravagent tout. Et la science, avant de répondre, elle va prendre des mois, sinon des années. Donc il faut vraiment diversifier. L'écologie, en fait, quand on parle d'intensification écologique, c'est un moyen de lutter contre les maladies qui frappent nos produits agricoles.
En terminant, un mot sur la forêt, davantage sur la forêt. On continue de la faire reculer, même chez nous, ici, la forêt, elle recule constamment. Les petites forêts régionales disparaissent de plus en plus. La forêt boréale remonte aussi. Elle a une importance majeure, vous l'avez dit, oui. Puits de carbone et tout ça. Oui. Mais si on continue à la pousser, on accélère encore les problèmes.
Oui, oui. C'est là, si vous voulez, que je vais ouvrir un peu la réponse, parce que dans cette conférence qui est consacrée au changement climatique et à l'alimentation, on parle beaucoup du changement climatique comme facteur pouvant être nocif pour une bonne alimentation. Mais en fait, il n'y a pas que que ce facteur, disons, du changement climatique. Il y a de nombreux autres facteurs qui interviennent, comme l'épuisement des ressources naturelles, qui n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est-à-dire quand on détruit la fertilité des sols par des méthodes intensives et chimiques, c'est évidemment préjudiciable à l'environnement. Et puis vous avez une autre question qui est extrêmement importante, c'est la question de la santé publique, du lien entre la santé publique et l'alimentation. Il faut améliorer de façon très substantielle la qualité des aliments. L'aliment industriel, certes, il se conserve bien, il amène des calories, parfois des protéines, souvent des calories, etc. Mais il n'est pas équilibré, il ne correspond pas aux standards que nous indiquent les nutritionnistes. Donc il faut changer tout ça. Alors, donc ça signifie qu'il faut avoir une approche globale du système alimentaire avec tous les facteurs qui le contraignent. On a parlé du changement climatique, les ressources naturelles, la santé. Et la dernière chose, c'est effectivement la démographie, c'est quelque chose d'important, puisque vous savez que la Terre va compter probablement pas loin de 10 milliards d'habitants en 2050. Mais il faut cesser ce mouvement d'urbanisation effréné qui conduit à faire des villes gigantesques et qui vont devenir, qui sont déjà dans certains pays, ingérables. Donc il faut aller vers ce que nous appelons des systèmes territorialisés, c'est-à-dire déconcentrés, et donc aménager l'espace rural avec l'agroécologie. Et c'est là que vous retrouvez les petites forêts dont vous m'avez parlé. C'est fondamental de maintenir un tissu forestier dans le rural. Mais aussi, on va alimenter des villes de moindre importance qui seront à la proximité de la production des aliments. L'avenir, c'est ça. Ce n'est pas un monde concentré, industrialisé, pollué, etc. C'est un monde, au contraire, décentralisé, territorialisé, avec plutôt des petites unités de fabrication. Et puis, évidemment, avec les méthodes modernes de relations par Internet, etc. Il faudra inventer un nouveau modèle. Ce n'est pas le retour au modèle du passé, de polyculture-élevage. C'est vraiment un modèle que je qualifie de post-moderne, avec beaucoup d'innovation, mais qui va apporter une qualité de vie qui est en train de diminuer, sinon de disparaître, dans les pays hyper-industrialisés.
Monsieur Jean-Louis Rastoin, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Ici Lionel Levac. Et pour inventer un nouveau modèle qui ne fera pas de l'achat local qu'une simple façade, qui ne sera pas que du maquillage sur la concentration des entreprises et des activités, concentration qui se poursuit et même s'accélère au détriment des régions, et qui ne sera pas l'uniformisation déguisée des productions et des produits, eh bien pour tout cela, il faut vraiment s'y mettre. Il semble qu'à défaut de changements importants dans nos approches face à l'alimentation, nous allons continuer de mettre en péril notre propre garde-manger. Au revoir.